Place Info.
Bonsoir et bienvenue dans les informés de France Info à la une. Le plan à 500 milliards du couple Macron-Merkel. Nous parlerons de relance économique, de gratuité des vaccins, de marcheurs rebelles. C'est dans les informés avec Maya Daboulos, directrice générale adjointe de Havas Paris. Avec vous, Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Avec Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info, et avec Xavier Couture, consultant audiovisuel. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio. Et tout d'abord cet hommage en ouverture des informés à Michel Piccoli qui nous a quittés à 94 ans. Question qui lui avait été posée un jour: quel est votre film préféré? L'acteur avait répondu ceci sans hésiter.
Pour l'instant, c'est peut-être Le Mépris de Godard. Parce que Godard a quand même été quelqu'un de très très important. On se dit que c'est un fou dangereux, sinistre, épouvantable, mais on s'aperçoit qu'un film comme Le Mépris est déjà un classique.
David Couture, Le Mépris de Godard, cette histoire de désagrégation de couple, et puis tant d'autres films, ça nous fait quelque chose, la disparition de Michel Piccoli.
Moi, j'ai une peine affreuse aujourd'hui. Michel Piccoli est pour moi non pas un monstre sacré du cinéma, je ne veux pas reprendre le journaliste qui a fait tout à l'heure sur le papier, mais c'est un géant du cinéma, au sens quasiment anglo-saxon du terme. C'est une star internationale, mais c'est surtout un comédien qui va laisser une trace exceptionnelle dans le cinéma français. Alors évidemment, sa discrétion, le côté un peu intériorisé d'un comédien qui était tellement au-dessus du lot, fait qu'il n'a pas eu un profil de star au sens où il ne faisait pas la une des gazettes. En revanche, cette filmographie en fait, à mes yeux, l'un des plus grands comédiens que le cinéma français a eu. Bien sûr, il a travaillé avec Ferreri, il a travaillé avec Claude Sautet, avec Léon Scarrax, avec Alfred Hitchcock, avec Marco Bellocchio, avec Buñuel. Il a été l'homme qui a probablement fait des films tellement différents entre Vincent, François, Paul et les autres. Et puis, film incroyable s'appelle Le Prix du Danger. Il avait été joué aussi dans ce film que j'ai adoré, tiré de l'œuvre du regretté Jean-Marc Roberts, qui s'appelait Affaire étrangère. Et le film s'appelle Une étrange affaire, où il crée un personnage totalement ambigu, invraisemblable. Bref, j'ai une immense peine. C'est un géant qui vient de disparaître et le cinéma français vient de perdre un de ses plus grands et plus beaux représentants.
Jannick Halimi, pour poursuivre cet hommage avec vous, Michel Piccoli, c'était plus qu'un acteur, ça a été dit, redit, il habitait ses rôles, il les incarnait littéralement. Il y avait Claude Sautet, évoqué à l'instant par Xavier Couture, avec ses films qui ont marqué les années 70, Jannick, presque une sorte de récit de cette époque qui nous rappelle un peu les 30 Glorieuses et des chefs-d'œuvre qui nous ont touchés et qui restent au fond d'une sorte de patrimoine commun aujourd'hui.
Oui, absolument. Il a marqué, comme vous dites, l'époque des 30 Glorieuses, de la montée des cadres, de la classe des CSP+, des problèmes aussi de devenir de cette classe bourgeoise, un peu désillusionnée. Ça a été ça, Piccoli. Mais comme le disait Xavier Couture et bien d'autres sur vos ondes d'ailleurs, ça a été un grand acteur dont une des caractéristiques, je crois que c'est Pierre Arditi qui le connaissait bien et qui l'a très bien souligné, et c'est d'avoir changé de rôle, de changer de peau, et que cela se faisait tout naturellement.
Comme disait
Xavier, il passait d'un metteur en scène à un autre avec une dextérité, une crédibilité extrêmement forte. Et moi, je voudrais juste rajouter à toute la filmographie qu'on vient de citer, et je crois que ça avait été cité par un de vos journalistes auparavant. Moi, j'étais petite, je tiens à le dire, mais je garde quand même en souvenir aussi de sa présence télévisuelle à travers le film qui a été une merveille de la télévision publique des années 60 avec Le Don Juan de Marcel Bluval, où il était dans ce film une modestie de moyens très sobre, avec une beauté, une intelligence du rôle de Don Juan avec Claude Brasseur, Hans Ganarel, qui je crois marquera aussi et la télévision et également toutes les mentalités populaires au sens noble, je puis dire, du terme.
Gilles Bornstein, il y avait l'acteur engagé aussi, enfin engagé, il avait ses convictions. Il y a le film de Buñuel, Le charme discret de la bourgeoisie. Puis il y a le Marco Ferreri aussi de La Grande Bouffe, où on voit cette bourgeoisie qui décide de se donner la mort en mangeant jusqu'au bout, à outrance, avec quelques vedettes à côté, Mastroianni, Noiret, Tognazzi, Andrea Ferreol et d'autres. Il y avait aussi ça chez Michel Piccoli, cette espèce d'engagement très personnel. Hein.
Oui, exactement. C'est ce que je voulais vous dire avant même que vous me posiez la question. C'est vrai que moi, quand j'ai, vous savez, quand on commence à aller au cinéma, quand on a 12, 13, 14, 15 ans, quand j'allais au cinéma avec mes parents, quand ils m'emmenaient au cinéma, eh bien, Piccoli était vraiment au fait de sa gloire. Donc, je me souviens très bien que c'est un des acteurs de mon enfance. Et c'est vrai que, comme l'a très justement dit Yannick, c'est un des acteurs à travers lesquels, par ses rôles sur la bourgeoisie, sur la société française, j'ai découvert la société française. Et puis, vous avez raison, c'était un acteur engagé, et un acteur engagé à l'ancienne. Et ça nous donne à nous tous, qui avons un certain âge maintenant, une certaine nostalgie. Il n'était pas engagé pour les petits oiseaux ou pour les petites herbes. Ses combats sont très bien. Il était vraiment engagé dans des combats politiques, politiques à l'ancienne, comme les artistes, des combats que les artistes n'endossent plus aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un modèle d'artiste engagé qui a marqué, qui a un petit peu marqué notre génération et qui nous manque aujourd'hui.
Maya Daboulos, ce grand acteur, cet immense acteur hein, qui part du mépris de Godard, on est en 63, hein, et qui va aller jusqu'à Nanni Moretti, Habemus Papam, espèce de chef-d'œuvre assez détonnant, un homme en proie au doute existentiel. C'était un peu le récit, non pas d'un pape, mais de lui-même. Hein. Ce personnage habitait en fait ses rôles, mais ses rôles l'habitaient aussi. Hein. Ce qu'il était lui.
Oui, absolument. D'ailleurs, il avait un très beau discours sur l'acteur et le rôle d'acteur, sur le fait que l'acteur n'existait qu'à travers le regard de l'autre, notamment. On l'a beaucoup entendu là-dessus. Et juste pour revenir un instant sur l'acteur engagé, comme le disait Gilles Bernstein, je me souviens plus de la phrase exacte, mais il a souvent dit des choses telles que si on n'épouse pas les problèmes, les incertitudes, les doutes de la société, alors ça ne vaut pas la peine d'être acteur. Et c'est ça, l'engagement aussi. C'est mettre aussi sa passion et son métier au service des engagements sociétaux.
Ultime mot avec vous, Xavier Couture, on va le regretter, tout simplement.
On va le regretter. La phrase, oui, la phrase que je voulais d'ailleurs citer, parce que je l'avais notée, qui vient d'être évoquée par Mayada, c'est « Si l'on n'épouse pas les questions, les doutes et les délires de la société, pas la peine d'être acteur. » C'est magnifique. Il s'est tellement, et c'est tellement lui, et c'est vrai que ce que disait Gilles est tout à fait exact. Non seulement il était engagé, mais contrairement à d'autres artistes qui parfois avaient des engagements plus ou moins intense et plus ou moins fidèle, il est resté le même sur ses engagements d'un bout à l'autre de sa carrière. Il n'a jamais, jamais, jamais dérogé à ses engagements politiques.
Allez, voilà donc pour cet hommage avec tous les quatre hein, à Michel Piccoli qui nous a quittés à 94 ans. France Info, 20h10, c'est le Fil Info avec vous, Frédéric Bagnada.
Monstre sacré du cinéma français, Michel Piccoli est donc décédé mardi dernier des suites d'un accident cérébral. Il avait 94 ans, énigmatique autant que pudique, acteur mais aussi comédien, producteur, scénariste, réalisateur, une voix reconnaissable parmi tant d'autres, ensorcelante. Une carrière de près de 60 films où il avait incarné des personnages sombrement extravagants, comme des séducteurs bouleversés par les choses de la vie. 500 milliards d'euros pour sortir l'Europe de la récession. Angela Merkel et Emmanuel Macron s'entendent sur un plan historique via un mécanisme inédit de mutualisation de la dette européenne. Créer une Europe de la santé doit devenir notre priorité, selon Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est en passe de perdre sa majorité absolue demain à l'Assemblée nationale, conséquence de la création d'un 9e groupe et qui sera officialisé demain. Il sera co-dirigé par l'ancien député marcheur du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin. Les maires élus au premier tour des municipales vont pouvoir entrer en fonction. Le conseil scientifique a donné son feu vert à leur installation. 30 000 communes sont concernées. Les conseillers municipaux doivent se réunir entre les samedis 23 et jeudi 28 mai dans des conditions sanitaires renforcées. Le Conseil d'État interdit l'usage des drones de surveillance à Paris pendant le déconfinement. Ils étaient utilisés pour surveiller le respect des règles de ce déconfinement en dehors de tout cadre légal, estime la plus haute juridiction administrative.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés, Jean-François Aquili.
Emmanuel Macron et Angela Merkel avaient promis une initiative. La voilà donc, ce plan de relance pour l'Europe de 500 milliards d'euros face à l'impact économique du Covid-19. Annonce faite en conférence de presse commune à 17h, le président Emmanuel Macron.
Ce que nous proposons, c'est que, conformément au traité, nous puissions ensemble apporter notre signature pour que l'Union européenne lève 500 milliards d'euros sur les marchés. Ces 500 milliards d'euros ont vocation à être remboursés. Pas remboursés par les bénéficiaires de ceux qui utiliseront cet argent. Ils pourront soit être remboursés par les États membres, par une clé de répartition qui dépend de votre poids dans le budget, par des contributions que nous aurons vocation à décider ensuite, ou par d'autres mécanismes qu'il nous reviendra de décider en lien avec la Commission, et ça fera partie de la finalisation de cet accord. Ces 500 milliards d'euros, nous proposons de les utiliser pour justement faire ces transferts, c'est-à-dire les utiliser pour faire des dotations budgétaires, et donc transférer du vrai argent budgétaire, dans les régions qui sont les plus touchées, dans les secteurs qui ont été le plus impactés.
Gilles Bornstein, vous expliquiez tout à l'heure sur France Info, à la télé, qu'il y avait eu une insistance à avoir cette image du président de la République et de la chancelière côte à côte. Bon, on sait qu'ils étaient en visioconférence, mais il fallait montrer le couple franco-allemand.
Oui, il se trouve que c'est France Télévisions qui a été opérateur de cette, vous savez, les chaînes alternes, oui, pour produire, si je puis dire, les images de la présidence de la République. Il se trouve que c'était France Télévisions qui a été opérateur aujourd'hui, et je sais qu'effectivement, il y avait une volonté commune de l'Élysée et de la chancellerie, en tout cas de l'Élysée, de montrer des images d'une conférence de presse commune pour que le téléspectateur ait l'impression qu'ils étaient vraiment dans la même pièce, côte à côte, que le couple franco-allemand était côte à côte. Et c'est vrai que, sur la forme, en tout cas, ça fonctionne pas mal.
Et sur le fond,
sur le fond, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est une victoire d'Emmanuel Macron, parce que le mécanisme est simple. L'Europe va emprunter ensemble de l'argent. C'est comme si tous les quatre, on empruntait ensemble de l'argent. Et cet argent sera donné, non pas prêté, cet argent sera donné à ceux parmi les Européens qui en ont le plus besoin. Et ensuite, ce n'est pas le pays qui obtiendra cet argent qui remboursera. C'est l'Europe tout entière. Donc, c'est de la mutualisation des dettes, c'est de la solidarité européenne, c'est tout ce dont l'Allemagne n'a jamais voulu, les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande non plus, tout ce dont l'Europe du Nord n'a jamais voulu, eh bien Angela Merkel et Emmanuel Macron se sont engagés tout à l'heure à le faire. Alors à ce stade, ce n'est qu'un accord entre deux, ça n'engage pas les 27 et ça n'engage pas en particulier les pays qui y sont réticents. Mais la Commission a dit immédiatement qu'elle était favorable à ce plan. C'est quand même assez bien parti, et en ce sens, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de nouveau dans l'Union européenne. Je voudrais pas monopoliser la parole, c'est aussi, je trouve, très important pour Angela Merkel, dont on disait qu'elle était en difficulté et qu'il a accompli un geste important.
Vous êtes d'accord avec cet avis, Maya Daboulos, parce que l'argent, il faut le préciser, sera ensuite reversé en dépenses budgétaires des 27. Hein, donc, c'est une sorte de mutualisation qui ne dit pas son nom.
Tout à fait. Et c'est aussi en ça que c'est une énorme victoire pour Emmanuel Macron, puisque l'Allemagne a effectué un réel bouger dans ses positions. Et par ailleurs, accessoirement, il y a un avantage politique pour Macron de s'afficher avec celle dont on dit en France qu'elle a parfaitement géré la crise du coronavirus. Et donc c'est profitable politiquement, si j'ose dire, de s'afficher dans le camp des vainqueurs. Mais au-delà de ça, je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière et rappeler, et c'est important de le rappeler quand même, que les pandémies ont tué des millions de personnes avant la mondialisation, avant la naissance de l'Europe. La peste au XIVe siècle, si on monte jusqu'à là, a tué quand même un quart de la population mondiale. Jamais les épidémies aujourd'hui n'ont fait aussi peu de morts. Pourquoi ? Parce qu'on a partagé. Parce qu'on a partagé l'info, parce qu'on a partagé les traitements, parce qu'on a partagé les vaccins, parce qu'on a partagé les bénéfices et les risques. Donc évidemment qu'il est nécessaire de se coordonner, et évidemment que l'Europe est indispensable. Est-ce que l'Europe a été jusqu'ici à la hauteur ? Non, pas du tout. Mais il faut avouer qu'il y a des choses très fortes qui ont été annoncées aujourd'hui. Alors pourquoi ? Au-delà des 500 milliards, ce qui est intéressant, au-delà des montants, c'est que certaines priorités affichées sont intéressantes, car elles ont un impact à long terme. Taxation GAFA, souveraineté sanitaire, cadre européen pour les salaires minimums, etc. Et au fond, et j'en terminerai par là, l'Union européenne et cette initiative conjointe de Macron et Merkel peuvent contribuer à ce que le repli et le rétablissement des frontières ne deviennent pas eux aussi des gestes barrières.
Alors justement, la France pourra recourir au plan de relance européen pour rénover l'hôpital. C'est ce qu'annonce à l'instant Bruno Le Maire, cité par l'agence France Presse. Yannick Halimi, c'est assez étonnant finalement. La France, au fond, a poussé pour que ce plan se déploie. Et nous allons en savoir un petit peu plus dans les minutes qui viennent. Apparemment, elle pourrait même en bénéficier en prise directe avec ce plan hôpital qui a été dans les grandes lignes révélé hier par Olivier Véran dans les colonnes du Journal du Dimanche.
Oui, la France pourra en profiter, et comme le disaient Gilles et Mayada, c'est une victoire politique et donc économique et sociale pour la France. Mais je voudrais effectivement rajouter ce qui a été dit, c'est que c'est d'abord et avant tout une victoire pour l'Europe, effectivement, dont on disait notamment à l'occasion de cette crise sanitaire qu'elle était totalement à la ramasse, pour parler trivialement. Et beaucoup de choses doivent être encore faites en matière de recherche, en matière de vaccins. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on vient de loin, que l'Union européenne vient de loin et que le couple franco-allemand vient de loin. Souvenons-nous qu'il y a encore quelques mois, à la fin de l'année dernière encore, Angela Merkel et l'Allemagne, donc, freinaient des cas de fer sur les règles budgétaires. Et puis, également, souvenez-vous, sur la taxation des GAFA, les Amazon, etc., Apple et compagnie, où l'Allemagne avait plutôt une position, pour faire court, pro-américaine. Donc, comme le disait Mayada, il y a eu un bougé, comme on dit, de Merkel d'Angela Merkel et de l'Allemagne. Oui. Et on peut mettre aussi ça au crédit, effectivement, du volontarisme de la France et d'Emmanuel Macron. Je voudrais juste, en deux mots, très vite, dire tout de même que depuis la crise du coronavirus, tout de même, l'Union européenne avait fait quelques gestes, puisqu'elle était sortie de facto des règles de Maastricht en matière des 3% budgétaires, et que, sans rentrer dans les détails, le fonds de solidarité qui existe déjà, qui a été mis en place après la crise de 2008, délivrait des fonds sans contrepartie de la part des États en matière de réformes structurelles, de réduction de fonctionnaires, etc. Oui. Ce qui avait été tout de même la lettre de ce dispositif mis en place en 2008-2009, notamment à l'encontre ou à l'égard, en tout cas, de la Grèce.
Xavier Donc, Couture,
effectivement, c'est une grande victoire pour l'Europe et pour la France et Emmanuel Macron.
Xavier Couture, retour de ce couple franco-allemand.
Ben, visiblement, oui, et de manière un peu même surprenante, puisque cette décision, ou en tout cas cet accord, une un peu plus noire, où on a entendu la cour de Karlsruhe nous expliquer qu'il fallait que la Banque Centrale Européenne s'explique sur l'aide qu'elle était censée apporter aux pays en difficulté. Du coup, bien sûr, Angela Merkel vient démentir la rumeur selon laquelle l'Allemagne se serait mise en dehors du mouvement européen. Elle prend la décision, et c'est une formidable victoire, évidemment, pour l'Europe. C'est une victoire pour elle, parce qu'elle est toujours sur le plan politique. Elle est parfois là où on ne l'attend pas. Et là, de ce point de vue, elle a fait un mouvement qui est tout de même assez surprenant, dans cette période-là. Et puis, c'est une formidable victoire, d'abord pour la France, évidemment pour la France, et c'est une victoire qui est incarnée par Emmanuel Macron. Je dirais que derrière ça, je ne sais pas s'il faut ou pas voir l'ombre aussi de notre représentant, notre commissaire Thierry Breton, qui, je pense, si la Commission se félicite déjà de cet accord, c'est que la Commission a dû y participer, et que je pense que Thierry Breton, qui est au travail de manière très active sur tous ces sujets, a dû tout de même créer les conditions de cet accord possible.
Allez, 20h et 21 minutes sur France Info. C'est l'heure du Fil Info. Le retour avec vous, Frédéric Bagnada.
L'épidémie de Covid-19 a fait 131 morts de plus en 24 heures en France, mais le nombre de malades en réanimation poursuit sa baisse et repasse sous la barre des 2000 pour la première fois depuis le 22 mars, selon le bilan quotidien de la Direction Générale de la Santé. Il avait du talent, de l'humour et il aimait mes fesses, a réagi l'ancienne actrice Brigitte Bardot après l'annonce du décès de Michel Piccoli, son partenaire dans Le Mépris, mythique film de Jean-Luc Godard. La France est orpheline, déclare Gilles Jacob, l'ancien président du Festival de Cannes, monument du cinéma français Michel Piccoli, célèbre pour ses rôles dans Les choses de la vie ou plus récemment Habemus Papam, est décédé le 12 mai dernier à l'âge de 94 ans. On a également appris aujourd'hui la disparition brutale de l'organiste, guitariste et chanteur américain Lucky Peterson, grande figure de la musique blues et du jazz. Il a succombé à un accident cardiovasculaire dans son ranch au Texas à l'âge de 55 ans. La France poursuit son déconfinement progressif avec le retour aujourd'hui des élèves dans les collèges situés en zone verte. 185 000 élèves ont repris le chemin des cours dans des conditions sanitaires strictes avec notamment port du masque obligatoire. 500 milliards d'euros pour sauver l'Europe lors d'une conférence de presse commune. Angela Merkel et Emmanuel Macron annoncent leur volonté commune de créer un fonds européen afin d'abonder les budgets des pays de l'UE les plus touchés par cette crise du Covid. Ces montants seront remboursés par l'ensemble des 27 en fonction de leur poids relatif dans l'économie européenne.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et la France pourra recourir au plan de relance de 500 milliards proposé par Emmanuel Macron et Angela Merkel pour rénover l'hôpital et soutenir les secteurs frappés par la crise. C'est ce qu'a donc indiqué Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, chez nos confrères de LCI, précisant que ce plan de relance pourrait aussi concerner le tourisme, l'automobile ou encore l'aéronautique. Qu'en a dit la chancelière Angela Merkel? Écoutez son propos aujourd'hui lors de la conférence de presse.
Cet effort est indispensable, nous en sommes convaincus, et cela permettra de garantir la cohésion de l'Union européenne mieux que nous n'avons pu le faire jusqu'ici. Je suis extrêmement contente de voir que nous pouvons aujourd'hui vous annoncer ensemble cette initiative franco-allemande. C'était quelque chose qui était indispensable pour que nous apportions notre contribution à l'avenir de l'Union européenne. Pour le moment, ce qu'on vous présente, ce sont les réponses à court terme à la Covid. Par la suite, bien sûr, il y aura des réponses à moyen et à long terme. Il faut les élaborer.
Apparemment, Maya Daboulos, il y aura d'autres réponses, du moins c'est ce qu'a laissé entendre la chancelière. Elle n'avait pas l'air d'être, au fond, très réfractaire, hostile, et plutôt dans le sens de cette histoire-là.
Non, absolument. Encore une fois, sur la forme, sur le fond, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le fait que ce soit plus une sorte de subvention que des prêts, c'est un énorme changement par rapport aux positions allemandes. Et puis également sur le timing. L'intervention de l'Union européenne, comme sur les interventions nationales, on y viendra avec les annonces de Bruno Le Maire, mais il est indispensable de prévoir, vous savez, il y a beaucoup d'interventions qui fleurissent ces temps-ci sur le monde d'après, le monde post-Covid, etc. Néanmoins, il est important de rappeler qu'il y a deux temps qu'on est encore dans la crise, notamment en matière de santé, et qu'il est absolument indispensable de prévoir des mesures d'urgence avant d'envisager le monde d'après.
Gilles Bornstein, au fond, cet engagement européen, est-ce que, vous savez, ce qu'on dit d'habitude, c'est chaque fois l'Europe avance un pion et au fond, on oublie le jour d'après, on est passé à autre chose. Vous avez la sensation que là, il se passe quelque chose réellement ?
Oui, moi j'ai la sensation qu'il se passe quelque chose. Surtout, je dois dire que je suis assez impressionné ce soir par Angela Merkel, parce qu'il est bon ton en France de dire qu'Angela Merkel, elle est lente, qu'elle est rigide, qu'elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Bien, quand l'histoire est là, elle est là. En fait, elle avance par à-coups, Angela Merkel. En 2015, quand il y a eu la crise des réfugiés, qui a dit qu'on allait accueillir 2 millions de réfugiés? C'est elle, là où les gouvernements, même socialistes français à l'époque, n'étaient pas aussi allants. Peut-être que c'était une erreur, peut-être qu'elle l'a payé après par la montée de l'extrême droite. Mais en tout cas, quand il a fallu être au rendez-vous, elle était là. Quand il faut être en rendez-vous aujourd'hui, elle l'est. C'est compliqué pour elle. Elle a ses populistes à elle qui lui demandent exactement l'inverse. Ce qu'elle a fait ce soir va lui être, dès ce soir, reproché très fort par l'AFD et par tous les populistes allemands. Je trouve qu'elle a su penser contre elle-même, elle a su penser contre les constantes de son pays. Et d'une certaine manière, elle soigne sa sortie, parce que c'est bientôt pour elle la sortie. Et oui. On avait peur qu'elle sorte sur un mauvais bilan. Avec cette situation, et si l'Europe permet de surmonter la crise, eh bien, elle sortira vraiment avec quelque chose de très positif, vraiment chapeau.
Yannick Halimi, c'est une initiative franco-allemande, mais il y a la Commission derrière.
Oui, comme le disait Gilles. De toute façon, dans le mécanisme qui a été annoncé et dévoilé tout à l'heure, c'est bien la Commission qui procédera à cette aide remboursable, tout de même. Je pense que c'est pas des subventions entre guillemets à fond perdu, mais ça, c'est un détail. Et c'est bien un élément technique, je veux dire. Mais c'est bien la Commission, effectivement, qui est derrière ce mécanisme. Et même si la France est un élément politiquement fort, il faut quand même reconnaître que économiquement on est bien derrière l'Allemagne. Mais nous avons, avec le commissaire Thierry Breton, mais également à la tête de la BCE, Christine Lagarde, deux pouvoirs forts incarnés par des personnalités françaises qui ont aidé, entre guillemets, supporté au sens anglais du terme, Emmanuel Macron dans cette offensive en faveur de la coordination, voire la synergie européenne. Juste un point par rapport à, pardon, je termine, à Merkel, à Angela Merkel, contrairement à Emmanuel Macron qui subit une baisse de popularité extrêmement forte et continue, ça peut se retourner, mais pour le moment elle
reste très populaire.
Eh ben, elle était, comme le disait Gilles, extrêmement contestée, notamment par toute une partie de la droite et de l'extrême droite, donc de son camp pour la droite et de l'extrême droite en Allemagne, mais sa popularité depuis la crise, qui semble pour le moment beaucoup moins toucher l'Allemagne que les autres pays, beaucoup d'autres pays européens, la cote de popularité d'Angela Merkel remonte, ce qui lui donne d'ailleurs peut-être des marges de manœuvre politique au niveau européen. Et dit-on en Allemagne, elle pourrait, contrairement à ce qu'elle a annoncé officiellement l'an dernier, même pouvoir se représenter à la fin de l'année pour les élections.
Bon, Xavier Couture, je vais vous solliciter dans la deuxième partie des informés de France Info, puisque c'est l'heure de la pause. Hein. Rassurez-vous, nous allons rester sur ces questions de relance économique. Nous allons voir ce qui se passe du côté de chez nous avec ces nouvelles indications du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ce soir, vis-à-vis de cet investissement de 500 milliards de cet effort européen franco-allemand. Allez, nous marquons une pause pour... la météo, le rappel de l'info, et on se retrouve, nous retrouvons dans une poignée de minutes pour la deuxième partie des informés de France Info. Et c'est le temps de la météo, le rappel des prévisions avec vous, Jean-Pierre Rameau de Météo France.
Demain, persistance de conditions anticycloniques sur une grande partie du pays. Hormis la présence de nuages bas et uniquement en matinée le long des côtes de la Manche et quelques bandes brouillards à proximité de la Garonne, le soleil va briller généreusement tout au long de la journée, excepté en Corse et du côté du Mercantour, où les averses orageuses resteront d'actualité. Mistral et Tramontane vont souffler jusqu'à 70 km/h. Côté température, les minimales au lever du jour seront fraîches en bordure de Manche et dans le nord, avec des valeurs comprises entre 4 et 7 degrés, comptez 8 à 13 ailleurs. Ça sera déjà très doux autour de la Méditerranée, où l'on attend 14 à 19 degrés. Les maximales l'après-midi seront quasi estivales, comprises entre 20 et 30 degrés, avec 20 à Cherbourg, 22 à Brest, 24 à Lille. Comptez 25 à Tours, Dijon et Grenoble. Prévoyez 26 à Paris comme à Nancy, Lyon et Montélimar. 27 à Bordeaux et Marseille, 28 à Nîmes. On attend 30 degrés à Montpellier et ces températures vont continuer de grimper mercredi et jeudi.
France Info, il est 20h30. Et c'est le retour de l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. 131 décès supplémentaires dus au Covid-19 en France. Ces dernières 24 heures, le bilan a été rendu public il y a quelques minutes par le ministère de la Santé. La pression sur les services de réanimation continue de baisser. Des services où le nombre de patients passe aujourd'hui sous la barre des 2000 à 1998 précisément. Le Conseil d'État lui ordonne au gouvernement de lever l'interdiction de réunion dans les lieux de culte mis en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le Conseil évoque son caractère disproportionné. Il avait été saisi en urgence par plusieurs personnes et associations. Le retour en classe pour la plupart des élèves de 5e et de 6e. Jean-Michel Blanquer, le ministre d'Éducation, lui annonce que 70 cas positifs au Covid-19 ont été détectés dans les écoles depuis leur réouverture, ce qui forcera une cinquantaine d'établissements à fermer. Le secrétaire d'État chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari, lui évoque des corridors sanitaires qui pourraient être mis en place pour permettre aux touristes de l'Hexagone de se rendre outre-mer cet été. L'idée serait une quatorzaine divisée en deux périodes de confinement, avant le voyage puis à l'arrivée. L'OMS de son côté annonce qu'une enquête internationale sur sa propre gestion de la crise sera lancée le plus tôt possible, au moment approprié, dit l'Organisation mondiale de la santé. Pékin, de son côté, promet qu'un éventuel vaccin chinois deviendra un bien public mondial. Pour le ministre américain de la santé, l'échec de l'OMS face à la pandémie a coûté de nombreuses vies. Fin de citation. Et puis il était célèbre pour ses rôles dans Le Mépris de Godard ou encore Les Choses de la vie de Claude Sauté ou plus récemment Habemus Papa, monument du cinéma français. L'acteur Michel Piccoli est décédé, il avait 94 ans. Jane Birkin salue ce soir un homme à la modestie royale. Il est 20h32 sur France Info, les informés, ça continue.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà donc le retour de nos quatre informés qui ont dit de très belles choses d'ailleurs tout à l'heure sur Michel Piccoli, Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien, Maya Daboulos, directrice générale adjointe de Havas Paris, Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info et Xavier Couture, consultant audiovisuel. Nous allons évoquer à présent la relance de l'économie française. Que va-t-il se passer dans les semaines, dans les mois qui viennent? La France pourrait recourir à ce plan de relance européen de 500 milliards d'euros proposé, nous l'évoquions à l'instant, par Emmanuel Macron et Angela Merkel pour notamment en France rénover l'hôpital, relancer eh bien certains secteurs du tourisme, de l'automobile ou de l'aéronautique. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, était l'invité ce matin de France Info. Il a annoncé une décrue du chômage partiel dans les prochaines semaines et également a parlé de soutien à l'investissement mais sans hausse d'impôts.
Je ne souhaite pas d'augmentation d'impôts. Nous relancerons l'économie française par la croissance. Et nous arriverons à rembourser notre dette qui devrait être remboursée par la croissance et par le retour de l'activité. L'augmentation des impôts, des taxes, c'est la solution de facilité. C'est ce à quoi chacun pense spontanément en se disant, tiens, on va taxer les riches, on va taper ceux qui sont dans la meilleure situation possible.
Donc et ça vaut nous aussi pour l'ISF, si je vous suis bien.
Oui, ça vaut aussi pour l'ISF, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est trop simple de penser qu'on pourra éponger nos dettes et retrouver de la croissance par le retour de l'ISF. Nous avons maintenu un impôt sur la rente avec l'impôt sur la fortune immobilière. Donc nous taxons bien ceux qui ont un bien immobilier important. En revanche, le retour de l'ISF n'est pas une bonne solution.
Xavier Couture, cela promet de très beaux débats à venir et très vite. Hein, on ne va pas attendre l'été même, j'ai l'impression. Apparemment, il y a quelque chose de l'ordre du scénario qui se dessine, à savoir pas de hausse d'impôts promet Bruno Le Maire. On ne revient pas à des recettes de taxation de la richesse, qui est quand même un leitmotiv depuis le début de ce quinquennat. Et apparemment, il y a quelque chose de l'ordre de l'Europe, du soutien européen, du plan de relance qui se dessine.
Oui, alors ce que j'entends dans ce que dit Bruno Le Maire, c'est que ce qui va permettre de rembourser les investissements qui vont être faits pour sortir de cette crise proviendra de la croissance. Bon, quelle croissance, à quelle échéance, tout ceci n'est pas évidemment très 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 clair à ce jour. Je voudrais simplement rappeler que les Allemands étaient retenus à un taux de 58% de dette du produit intérieur brut, lorsque nous sommes à 100%. Et qu'avec les investissements qui sont prévus, les Allemands, même s'ils sont d'accord avec nous pour mettre 500 milliards à l'échelon européen pour relancer les économies les plus en difficulté, l'Allemagne a prévu pour sa seule économie un investissement global de 1400 milliards. 1400 milliards, c'est ce que l'Allemagne va dépenser pour remettre son appareil industriel en route, là où nous sommes capables de mettre a priori, si j'ai bien compris les chiffres, aux alentours de 400 milliards. On voit bien que dans cette espèce de sortie de crise, il y a, et c'est d'ailleurs magnifique que Emmanuel Macron ait réussi l'exploit de se réinvestir dans ce couple franco-allemand. Mais enfin, on voit d'une part une Europe du Sud qui est plutôt en difficulté, qui a plutôt moins bien géré ces crises du Covid, face à une Europe du Nord qui s'en sort beaucoup mieux, y compris dans les perspectives de relance économique après la crise. Et c'est tout ce réarrimage avec l'Allemagne est sans doute très bienvenu, à charge maintenant pour la France de ne pas se laisser, je dirais, décrocher dans le train européen, ce qui me paraît tout de même dangereux au regard des chiffres et au regard de cet indicateur dont évidemment on peut considérer qu'on s'en moque, puisqu'avec on parle maintenant de dette éternelle, mais franchement, parvenir à 120% de dette sur PIB, ça va quand même être difficile pour la France.
Maya Daboulos, il y a encore 15 jours, nous étions toujours confinés avec de vastes interrogations. Elles sont toujours là sur une éventuelle deuxième vague de l'épidémie. Aujourd'hui, on a la sensation que la priorité, c'est la relance économique.
Oui, Absolument. D'ailleurs, il est absolument certain que dans les semaines et les mois qui viendront, on trouvera forcément des personnes, qui, notamment des économistes, qui diront « Est-ce que tout ça en valait la peine ?» au vu de l'impact sur l'économie et sur la création d'inégalités, etc. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a l'Europe, mais il y a aussi la société civile et les entreprises. Habituellement, après chaque crise, voire même après les guerres, les sociétés civiles, en France surtout d'ailleurs, on se tourne vers l'État-providence. Cette fois, le mouvement social a cette particularité que les Français veulent à la fois plus d'État, mais aussi plus d'entreprises. Et au fond, il y a depuis quelques mois une remise en question du monopole de ce qu'on appelle l'État-providence. Oui. C'est-à-dire que les entreprises, le patronat, plutôt prompt à fustiger d'habitude l'interventionnisme étatique, applaudit les mesures prises par l'État, notamment sur le chômage partiel. L'État lui-même est soulagé par les très nombreuses initiatives d'entreprises pour fabriquer des masques, du gel ou encore maintenir les salaires. C'est tout le sujet d'ailleurs de la note que je signale au passage parue ce matin à la Fondation Jean Jaurès, où son auteur Raphaël Liorca propose même le concept d'entreprise-providence pour qualifier ce nouveau rôle de l'entreprise dans la société. Attention, ça ne veut pas dire que le secteur privé vient remplacer l'État, pas du tout, même au contraire. L'un ne va pas sans l'autre. Là, chacun a besoin de l'existence de l'autre. Et si je voulais être un peu taquine d'ailleurs, je dirais que quelque part, ce que j'appelle ces coalitions, ce coalitionnisme entre le public et le privé, signe la fin de la Startup Nation, où on avait l'impression que l'État singeait les startups et les entreprises. Plus que jamais, chacun doit être à sa place et chacun est à sa place aujourd'hui.
Gilles Bornstein, vous avez la sensation que les Français sont réceptifs à ces choix qui se dessinent peu à peu, à savoir on va vers une levée assez rapide des mesures de chômage technique partiel. Enfin, on va également vers une relance assez rapide de l'économie, de l'appareil, parce qu'il faut repartir. Vous avez la sensation que les Français vont accepter ce retour à l'activité parce qu'il y a toujours la peur du virus qui est en l'air?
Moi, j'en sais rien du tout, pour vous dire les choses franchement, j'en sais rien du tout. Ouais. Je trouve que pour l'instant, les Français sont comme le gouvernement, finalement. Ils sont sur une ligne de crête. Ils comprennent que la situation financière du pays va vers la catastrophe. Il y a eu ces chiffres du chômage du mois de mars, 240 000 en plus, qui étaient vraiment énormes. On attend ceux d'avril qui vont être énormes. Bon, les Français s'en rendent compte. Par ailleurs, ils n'ont pas envie... voilà, ils font toujours attention au virus. Je pense qu'ils sont vraiment sur une ligne de crête. Et le gouvernement aussi agit au jour le jour. Pour l'instant, le déconfinement se passe pas trop mal. En revanche, si on revient à Bruno Le Maire, j'ai trouvé, je dois dire, ses propos un peu démagos, parce que je trouve qu'une démagogie en succède d'une autre. On peut trouver que le rétablissement de l'ISF serait une bonne mesure d'un point de vue symbolique, je suis pas loin de le penser, mais enfin, l'ISF c'est 3 milliards d'euros. Là, on a dépensé 100 milliards d'euros, donc c'est pas avec ça qu'on va renflouer les déficits. Mais quand il dit c'est la croissance, Xavier le disait, quand il dit c'est la croissance qui va renflouer les déficits, quelle croissance, quand, comment? Pour l'instant, il n'y a pas de croissance. Pour l'instant, on va terminer l'année entre 8 et 10% de décroissance. Alors, avant qu'on retrouve une croissance telle qu'elle renflouera les déficits, on n'en est pas tout à fait là. Je pense que la grande inconnue pour tout le monde se demande, c'est d'où vient cet argent? Qui payera? Est-ce qu'on payera un jour? Est-ce que c'est de la dette perpétuelle? Est-ce qu'il faudra rembourser? Est-ce que ce sont nos enfants qui rembourseront? Les sommes sont tellement abstraites et les mécanismes à l'œuvre tellement incompréhensible pour les gens que là, oui, je pense qu'il y a une véritable incertitude sur le côté indolore ou pas des sommes qu'on met sur la table.
Vous voulez dire, Gilles Bornstein, on va aller vers le fil info dans un instant, nous nous sommes bagarrés au début de ce quinquennat pour 1 million par-ci, 2 millions par-là ou 1 milliard, et là on voit valser les dizaines, les centaines de milliards, on ne sait même pas d'où ils sortent, c'est un peu l'idée.
Je trouve que c'est l'antiphrase quand Emmanuel Macron dit « il n'y a pas d'argent magique ». Si, il y a de l'argent magique, c'est tous les jours il y a de l'argent magique. Olivier Véran a déversé de l'argent magique dans le JDD. Hier, cette somme, alors moi je pense que les 500 milliards, moi je pense que c'est à l'inverse de Yannick, je pense que c'est plutôt un don aux pays en difficulté. Mais tous ensemble, l'Europe, on devra les rembourser, la France y compris. Ouais. Donc là voilà, ils ont encore créé de l'argent magique cet après-midi, Merkel et Macron. Il y a de l'argent magique tout le temps et partout, et partout. Un jour la magie va s'arrêter, et ça pour le coup personne ne sait quand et comment.
20h41 sur France Info, je reviens vers vous Yannick Halimi dans un instant, c'est l'heure du fil info avec vous Emmanuel Langlois.
La reprise économique en France, elle se fera avant les fêtes de Noël en novembre, mais pas avant, pronostic ce soir sur France Info. Pierre Goguet, selon le président du réseau des chambres de commerce et d'industrie françaises, les mesures sanitaires entraînent des surcoûts difficiles à supporter pour la plupart des commerçants. Le gouvernement mis sous pression par la crise sanitaire, il doit trancher le dossier brûlant du second tour des municipales. Pour se prononcer, l'exécutif attend l'avis de son conseil scientifique. Entre ce soir et demain, la décision pourrait être prise d'ici la fin de la semaine. L'hypothèse d'un scrutin fin juin semble faire son chemin. Plusieurs dizaines d'autocars de tourisme ont organisé une opération escargot sur le périphérique parisien ce matin. Ils protestent contre le plan tourisme du gouvernement, dont la Fédération nationale du transport de voyageurs s'estime exclue. Comme la manifestation n'avait pas été déclarée, tous ont été verbalisés pour entrave à la circulation. L'activité reprendra demain dans les entrepôts français d'Amazon avec 30% des effectifs. Le géant américain de la distribution sur Internet avait fermé ses 6 entrepôts français le 16 avril dernier. Et puis la décrue qui se poursuit en Italie où le bilan quotidien dépasse pour la première fois depuis 2 mois, passe pour la première fois sous la barre des 100 décès. Le déconfinement s'est accéléré ce lundi dans la péninsule avec la réouverture des commerces, des cafés, des restaurants et des terrasses.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés, Jean-François Aquili.
Yannick Halimi, de l'argent magique par centaines de milliards, mais jusqu'où? Jusque dans le mur peut-être? C'est la question qui est posée ce soir, hein, par toutes ces annonces.
C'est, en tout cas, il y a une vraie quadrature du cercle, effectivement. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, ce qui se dit. Avec de telles dépenses, sans augmenter les impôts, et de toute façon, comme le disait Gilles, quels impôts, l'ISF 3 milliards, la flat tax un peu moins, 1,5, etc., ça ne serait pas suffisant. Des économies, quelles économies? Enfin, on a vu avec la crise des Gilets jaunes, il n'est pas question de réduire le nombre de fonctionnaires. Donc il y a quand même, me semble-t-il, deux pistes évoquées par soit Bruno Le Maire, soit Olivier Véran, mais qui peuvent se profiler pour sortir progressivement de la seringue. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelait à un moment, vous vous souvenez, les emprunts d'État. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En fait, c'est une sorte de dette perpétuelle. Les Français souscrivaient des impôts aux obligations d'État et touchaient un revenu régulièrement pendant 20 ans, 30 ans, 35 ans, incrémenté tous les mois ou tous les ans d'une partie du capital. Ça, c'est un des éléments dont on parle au sein du gouvernement. Et l'autre élément, peut-être plus concret, évoqué également par les deux ministres, ils l'ont dit, comment vont-ils faire, ça je n'en sais rien, c'est que cet argent magique dont on parle les uns les autres, il s'accompagnera de choix. De choix. C'est-à-dire que si on met des milliards sur l'hôpital, par exemple, ou sur la dépendance dans quelques mois, il faudra faire des choix. Donc il faut s'attendre aussi à un État qui est présent, protecteur, certes, on a raison, il y a un retour de l'État qui est demandé par les Français et les opinions publiques européennes, voire américaines, les opinions publiques en général, mais il y aura peut-être des choix, c'est-à-dire des secteurs, des activités, des branches sur lesquelles l'État devra également... En revanche, réduire ses investissements et sa présence, lesquels, alors là, d'abord, je suis pas au courant, et deuxièmement, ça demandera du courage politique. Est-ce qu'Emmanuel Macron aura le temps d'ici un an et demi de le définir? Gros point d'interrogation.
Xavier Couture, faire des choix, nous dit à l'instant Yannick Halimi, est-ce qu'au fond, on ne va pas assister à une démultiplication dans les semaines, les mois qui viennent, de revendications tous azimuts, à chacun son aide et à chacun son coup de pouce?
Alors, il est sûr que sur le plan social, il va y avoir une demande, puisqu'effectivement, on fait valser les centaines de milliards, et donc le caractère magique de cet argent va forcément aiguiser des appétits. Là, à charge maintenant pour, effectivement, comme le disait Yannick, à charge pour l'État de flécher cet argent là où, évidemment, la population sentira que le besoin est le plus criant. Je voudrais juste ajouter quelque chose à propos de la dette et de l'argent magique. Il faut quand même avoir à l'esprit que la dette cumulée du monde, de l'ensemble des ménages, des entreprises et des États à l'échelle du monde, c'est 250 000 milliards de dollars. 250 000 milliards. Et que les États seuls, la dette des États, dont la Chine porte, je crois, 40 000 milliards, c'est 80 000 milliards de dollars de dette. Donc, l'argent, il est magique. Ce que ça signifie, en corollaire, c'est que la stabilité politique est absolument nécessaire sur une poudrière financière aussi dangereuse. Autant de dettes ne peut se régler que si effectivement il y a une forme de stabilité politique qui l'accompagne.
Oui, Maya Dabulos, parmi les priorités évoquées, hein, ça et là, dans ces informés, il y a la réforme de l'hôpital nécessaire. Hein. Il y a ces propos d'Olivier Véran qui a lancé le Ségur de l'hôpital dans le journal du dimanche hier. Apparemment, ça démarre lundi prochain, dans une semaine. Ça, c'est l'une des priorités des investissements de demain.
Absolument. Et vous avez raison d'ailleurs de parler d'investissement plutôt que de dépenses. Mais je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière, oui, parce que vous parlez en fait du discours d'Olivier Véran. Moi, ça, politiquement, un choix a été fait aussi par le président de la République. J'ai l'impression quand même que c'est celui du pragmatisme. En gros, il a acté que le plan hôpital, que la loi Ma Santé 2022 présentée par Agnès Buzyn n'avait pas convaincu ni les hospitaliers ni l'opinion. Donc il a dit, en gros, ce qui a été fait n'était pas à la hauteur, on efface tout et on recommence, plutôt que l'habituel, c'était bien, mais il faut aller plus loin. Bon, c'était quand même intéressant de le noter. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure, le temps de la crise est encore là. C'est un préalable pour passer au temps 3 du quinquennat. Comme si, en fait, cette réforme de l'hôpital était l'étape nécessaire pour réformer tout ce qu'il y a à réformer. En fait, c'est vraiment sans cet immédiat, il est difficile de passer à la suite et de ce qu'on commence à appeler maintenant l'acte 3 du quinquennat. Je dirais simplement aussi que cette réforme, c'est une occasion, une des dernières d'ailleurs qu'aura Emmanuel Macron, pour marquer le quinquennat. Il a fait des choses, mais qui étaient pour beaucoup, des réponses à des crises majeures. Simplement, dans quelques années, les Français ne diront pas « Ah, Macron, oui, c'est le président qui a suggéré les gilets jaunes » ou encore moins « Macron, c'est celui qui a géré le Covid-19 ». En fait, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il lui faut un marqueur. Et cette occasion est peut-être celui de la réforme de l'hôpital.
De l'hôpital, ça aurait pu être la SNCF, les retraites, mais ce pourrait être finalement Gilles Bornstein, cette réforme de l'hôpital. Il est question de rehausser les salaires, de les hisser à la moyenne de l'OCDE, de tous les personnels soignants, que ce soit les infirmiers, les médecins. Enfin, il y a une réforme de fond qui va coûter une fortune et qui s'annonce tout à fait nécessaire après ce qu'on a traversé.
Alors, si vous voulez pas de l'argent magique, je peux vous parler du pognon de dingue. Ça va coûter un pognon de dingue, c'est sûr. On voit que les besoins sont énormes, hein, je ne le nie pas. Je lisais récemment qu'une infirmière gagnait deux fois le SMIC il y a une quinzaine d'années et qu'aujourd'hui, les infirmiers ne gagnent que 1,2 fois le SMIC. C'est vrai que quand on dit, quand certains, comme Dominique Méda, par exemple, ou des sociologues de gauche disent qu'il faut remettre les salaires en accord avec leur utilité sociale, c'est vrai que le salaire de toutes les fonctions hospitalières, peut-être hors médecin et encore, sont complètement déconnectées de leur utilité sociale. Bien évidemment, elles valent plus socialement que ce qu'elles gagnent. Et d'ailleurs, le président de la République l'a dit quand il a parlé de toute cette seconde vague, là, ce deuxième rideau, qui n'était pas payé à la hauteur de ce qu'il voudra, de ce qu'il méritait. Bon, comment va-t-on augmenter tous ces gens-là? Là, c'est des milliards d'euros. Revaloriser, Mayada le sait, qui a travaillé 5 ans avec Marisol Touraine, revaloriser de façon conséquente, pas... des gadgets, de façon conséquente, tous les personnels de la santé publique, plus les dépenses d'investissement, il y en a pour des milliards d'euros. Alors, est-ce qu'ils les mettront ? On a un peu l'impression en ce moment que l'argent ne compte plus pour Emmanuel Macron, qui s'est complètement affranchi de toute espèce d'orthodoxie budgétaire, qu'il profite de la crise du Covid-19 pour élargir les vannes, y compris en politique intérieure. Alors, je ne suis pas dans sa tête. Est-ce que vraiment il s'est affranchi de tout ça? Est-ce que le Premier ministre est prêt à le suivre là-dedans? Je n'en sais rien, mais s'ils font ce qu'a dit Véran hier dans le Figaro, ça va coûter beaucoup d'argent.
Je vais vous donner la parole dans un instant, Jeannick Halimi. Permettez-moi de laisser la place à 20h50 sur France Info, au fil info avec Emmanuel Langlois.
500 milliards d'euros pour sauver l'Europe. Lors d'une conférence de presse commune tout à l'heure, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont annoncé leur proposition commune de créer donc un fonds européen afin d'abonder les budgets des pays de l'Union les plus touchés par la crise du Covid. Ces montants seront remboursés par l'ensemble des 27 en fonction de leur poids relatif dans l'économie européenne, ce qui est inédit. D'après Bruno Le Maire, la France pourra recourir à ce plan pour rénover l'hôpital et soutenir les secteurs frappés par la crise. Le ministre de l'économie qui précise que ce plan de relance inédit pourrait aussi concerner les secteurs du tourisme, de l'automobile et de l'aéronautique. Un dépistage d'ampleur organisé demain en Bretagne après la découverte de 69 cas de Covid-19 au sein de l'un des plus gros abattoirs européens dans les Côtes d'Armor. Plusieurs centaines de salariés doivent être testés. Le Conseil d'État suspend l'utilisation des drones pour surveiller le respect des règles du déconfinement par la préfecture de police de Paris, notamment les regroupements de plus de 10 personnes. Le Conseil parle d'une atteinte grave et illégale au droit au respect de la vie privée. Il avait déjà annoncé la suppression de 3700 emplois au début du mois en raison de l'impact du Covid-19 sur son activité. Le géant américain Uber va licencier 3000 salariés supplémentaires, soit environ un quart de ses effectifs au total. Et puis il ne désarme pas, malgré les critiques qui s'accumulent dans la majorité, une pression qui s'accentue. L'annonce d'un 9e groupe à l'Assemblée, composé de dissidents à l'REM, à l'aile gauche, est imminente. La présentation est programmée demain en fin de matinée lors d'une visioconférence.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Jeannick Halimi, vous vouliez ajouter un commentaire sur cette réforme de l'hôpital?
Sur la réforme d'hôpital, oui, j'ajouterai un commentaire. C'était aussi sur les déficits très, très rapidement.
Allez-y.
Sur l'hôpital, effectivement, ce qui a été dit, c'est que ça allait coûter cher avec la revalorisation des salaires et également avec l'incitation à utiliser ces RTT, hein. RTT qui, bien sûr, serait payé et donc une masse salariale augmentée. Sur le plan de l'hôpital, il y a aussi un autre élément extrêmement important esquissé par les ministres, c'est une plus forte synergie, une plus forte coordination entre le public et le privé, que ce soit les professions libérales ou les cliniques privées, qui permettraient déjà un meilleur état, une meilleure situation sanitaire pour les Français, et peut-être aussi des économies de fonctionnement extrêmement importantes. Et ça, c'est une mesure, j'allais dire, une disposition, un pan de ce plan hôpital structurel qui sera extrêmement important à définir, et il faudrait embarquer, mais je crois qu'ils y sont prêts, toute la médecine libérale. Je voulais juste rajouter très rapidement en matière de déficit, d'argent magique, etc. N'oublions pas qu'au-delà de la dette dont nous parlons tous, souvenez-vous du temps d'avant, la France, ainsi que l'Allemagne et d'autres, mais la France ne payait pas d'intérêts, souvenez-vous, les fameux intérêts. Pourquoi ? Parce que nous avons un État qui reste solvable, c'est-à-dire des taux d'intérêt extrêmement bas. Hein. Certes, nous sommes endettés, mais l'État est solvable. Et deuxième point, l'épargne des Français est extrêmement importante. Elle a même augmenté pendant la crise de façon extraordinaire, puisqu'elle s'élève à 5 300 milliards d'euros. Et là, on retombe sur ce que propose notamment la gauche, ou la France insoumise et d'autres. Pourquoi ne pas taxer l'épargne des ménages les plus importants, parce que là, il y a un réservoir de fonds extrêmement important qui participerait, selon en tout cas une partie de l'échiquier politique, à la réduction des inégalités au-delà de remplir les caisses de l'État.
Allez, je voudrais refermer ces informés avec ce qui a été déclaré tout à l'heure sur notre antenne par Philippe Douste-Blassy. Vous savez que l'OMS se réunit aujourd'hui et demain et l'ancien ministre de la Santé a co-signé une tribune pour réclamer des industries pharmaceutiques qui sortiraient de la concurrence pour trouver ensemble un traitement efficace contre le Covid-19. On écoute Philippe Douste-Blassy dans le 1850 France Info.
Il faut bien comprendre que si on n'arrive pas à permettre à tous les êtres humains, y compris les plus pauvres, d'avoir traitement, vaccin et test, on aura une deuxième, voire une troisième vague. C'est donc une priorité mondiale. Et donc il faut faire pour le Covid ce que nous sommes arrivés à faire pour le sida, la tuberculose, les hépatites, c'est-à-dire demander aux laboratoires pharmaceutiques de vendre leurs produits, leurs médicaments, leurs vaccins à des prix donnés dans les pays riches, mais de diminuer ces prix de 95% pour les pays les plus pauvres.
Il nous reste très peu de temps dans ces informés. Mayada Boulos, on peut rêver.
Oui, absolument. On peut rêver. Il faut rêver. Sinon, toutes les rêveries ont, enfin, n'ont pas forcément conduit à des découvertes majeures. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de découverte majeure sans rêverie. La question du vaccin est une question majeure. On a beaucoup parlé de souveraineté sanitaire dans cette émission. Mais il y a aussi la question de la diplomatie sanitaire. Je pense que la Chine rêve évidemment de sortir de son rôle de fournisseur, de principe actif pour les médicaments dans le monde, pour avoir vraiment celui de chercheur. Et au fond, effectivement, sortir un vaccin et le mettre à disposition du monde serait une démonstration de puissance sans précédent. Elle aurait en quelque sorte son moment Spoutnik, c'est-à-dire ce moment qui a un impact majeur sur la perception qu'ont les différents pays dans le monde de la Chine.
Xavier Couture, la Chine qui a promis que tout éventuel vaccin chinois deviendrait un bien public mondial, y compris dans les pays en développement. On a la sensation que Xi Jinping a quelque chose à se faire pardonner peut-être à travers cette annonce aujourd'hui.
Oui, on va souhaiter à la Chine que ce ne soit pas un Spoutnik, parce qu'on sait comment l'Union soviétique a terminé. Mais cela dit, je pour revenir sur ce que disait Mayada, oui, je crois qu'il y a évidemment une diplomatie autour de ce vaccin. Il y a la partie sanitaire, la partie recherche, la partie noble. Il y a une partie qui l'est un peu moins, et qui est la manière dont les États se concurrencent. Et au-delà de la concurrence entre les États, et au-delà de cette guerre qui est tout de même très dangereuse, je parlais tout à l'heure de la dette mondiale, et je pense qu'il faut faire très attention à cette montée d'agressivité entre la Chine et les États-Unis. Tant qu'on en est aux propos et aux invectives, ça n'est pas très grave, il ne faudrait pas que ça aille plus loin. Cela dit, je pense que ce vaccin est l'illustration aussi d'une concurrence très importante entre les laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes. Et donc, certes, il y a beaucoup de choses qui sont nées avec les émotions et avec la grandeur d'âme. Il y a aussi de très grandes choses qui naissent avec la concurrence.
Très vite avec vous, Mayada Boulos. Merci à vous. Merci, Xavier Couture. Merci, Gilles Bornstein. Très vite, Jannick Halimi, la une du Parisien aujourd'hui en France demain.
Michel Piccoli, le grand.
Bien évidemment. Bien évidemment.
Michel Piccoli, le grand.
Et merci à tous les quatre pour cet hommage à ce si grand acteur que vous avez rendu en ouverture des Informés de France Info. Pour ma part, je vous retrouve demain soir avec plaisir pour une toute nouvelle édition sur France Info. Bonne soirée.